retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pendant que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterais comme de raison, ô Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms, sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Gallion s'en mette en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et, après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ.
Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour le livre des Actes, un livre d'action Seigneur, un livre de mission. Et ça me fait du bien Seigneur de voir la passion de Paul, de tous ces premiers chrétiens qui annonçaient constamment l'Évangile dans les moments difficiles, dans des moments heureux Seigneur, et de voir comment ta parole se répandait et des gens répondaient Seigneur à ce message, répondaient à ton appel. Père, je te prie d'être avec nous ce matin. Alors qu'on se penche sur ce passage, viens nous rencontrer par ton esprit. Tu es présent ici, Seigneur Jésus, par ton esprit. Je crois cela fermement par la foi, Seigneur. Alors je te demande de venir faire la différence ce matin dans nos cœurs. Viens saisir nos cœurs avec la beauté de ton évangile et avec cette mission que tu nous as confiée, Seigneur, d'aller annoncer aux hommes que tu les aimes, Seigneur. Et que tu veux t'approcher d'eux et qu'ils s'approchent de toi, Seigneur. Je te prie, Père, de nous bénir ensemble ce matin. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Vous savez, lorsqu'il vient le temps de parler de l'Évangile, d'annoncer l'Évangile autour de nous, de parler de la foi, tout ça, il y a toutes sortes de barrières. Et je crois que, personnellement, mon expérience à moi, les plus grandes barrières sont dans mon cœur à moi. On se bâtit nous-mêmes des barrières parce qu'on se dit, ça sera pas évident, les gens sont plus ou moins intéressés. J'oserais croire, parce que c'est ce que je vois, c'est ce que j'observe, que les temps changent quand même. Je sais pas si on peut le dire comme ça, il y a un ami qui a utilisé cette expression-là, être post-frustré. On entre dans la période post-frustrée à l'égard du christianisme au Québec. Et les frustrations que les gens plus âgés peut-être ont par rapport à tout ce qui est christianisme, tout ça, on est rendu un petit peu ailleurs. Et si vous parlez avec les jeunes générations, c'est frappant. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes... ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas la connaissance. On le dit souvent, pas de connaissance biblique nécessairement. Mais en même temps, il n'y a pas nécessairement cette espèce de hargne qu'on trouve encore, qui a encore un écho dans les médias, n'est-ce pas? Et par exemple, vendredi soir, on est allé avec des amis à un show de musique et c'était Karim Ouellet, un super bon artiste émergent au Québec. C'était vraiment intéressant. Et puis donc, on est allé écouter son show, tout ça. Et c'est très sympathique parce que après, c'est tout petit, c'était dans une maison de la culture. Donc après, ils invitaient les gens qui voulaient rester là à leur place puis échanger avec lui pendant qu'il était sur l'estrade, ses musiciens, les producteurs, tout ça. Puis on pouvait poser des questions. Alors, on était avec des amis qui sont chrétiens. Et un des amis, tout simplement, a posé la question. Il dit, moi, j'ai une question. Il dit, dans tes chants, tu évoques des thèmes qui sont bibliques. Tu parles de Satan, tu parles de Jésus, Marie, tout ça. D'où ça vient? D'où ça vient dans ta culture? Est-ce que c'est des choses qui t'inspirent? Est-ce que tu nous parles de tes propres croyances à travers ça? Puis, savez-vous quoi? Karim était super à l'aise avec la question. Puis, il a dit, ben, c'est pas... Il dit, je penserais pas que je me situe comme un athée. En même temps, ces images-là sont très fortes pour moi. Il y en a qui évoquent des choses vraiment intéressantes. Et donc, j'aime ça aller lire ça. Des fois, il y a des pages qui me choquent, puis il y a d'autres pages qui m'inspirent. Et je trouve qu'il y a une richesse qui est là. Ce que j'ai retenu de cette conversation-là, j'aurais aimé ça aller prendre un café avec lui après, juste pour aller un petit peu plus loin ensemble vers l'Évangile. Mais ce que j'ai retenu de ça, c'est sa réaction. Vraiment, il n'était pas sur la défensive avec ça. Et j'avais aucun écho, Karim est jeune, d'accord? C'est vrai. C'est pas 25 ans. Il y avait aucun écho de cette espèce de hargne qu'il y a contre le christianisme ou contre les grandes religions qu'on trouve évidemment à cause de notre histoire au Québec, d'accord? Ça a été longtemps un pays, une terre où les choses étaient sombres parce que justement la religion avait une emprise énorme sur les gens et il n'y avait pas cette latitude d'aller, de cheminer, de comprendre les Écritures par nous-mêmes. Mais je vois qu'il y a beaucoup plus d'ouverture qu'on peut le penser. Je pense aux jeunes ce matin. Si vous avez 13, 14, 15, 16, 17 ans, votre génération à vous est beaucoup plus ouverte à discuter de ces choses-là. Des fois, je jase avec mes enfants et puis leurs amis vont leur poser des questions. On vit à une époque où il y a beaucoup d'immigration. Dans l'école, il y a déjà toutes sortes de religions qui sont là. Et donc, ils vont poser des questions. Qu'est-ce que tu crois? Une des amies à ma fille, à un moment donné, a dit, OK, si je comprends bien ce que tu crois, ça veut dire que nous autres, on s'en va tous en enfer. Mais c'était pas de la même manière que ça aurait été posé à mes amis à moi il y a 15 ans ou 20 ans, d'accord? C'était comme, ah, OK, c'est spécial ce que tu crois. Ça s'arrêtait là, vous comprenez? Et donc, il y a beaucoup plus d'ouverture qu'on le croit. À discuter. Je suis pas en train de dire que les gens tout à coup vont se mettre à croire. Il y a beaucoup plus d'ouverture qu'on le croit et les barrières sont souvent de notre côté à nous, dans nos craintes, dans nos appréhensions et on complique beaucoup les choses parce qu'on est animé par des peurs plutôt que simplement aller partager notre foi et ouvrir et dire ce qu'on a à dire. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans le passage ce matin. Paul arrive ici dans la ville de Corinthe. Corinthe, en deux mots, une ville de commerce, une ville extraordinairement prospère, une ville qui est rendue plus importante qu'Athènes en termes de prospérité, en termes d'influence, parce que c'est vraiment un corridor commercial super important. Une ville de culture aussi, mais bon, vous entendez souvent ça lorsqu'on parle de l'époque, on va parler de débauche, tout ça, l'idolâtrie, tout ce que ça entraînait. Corinthe était réputée, Corinthe en fait avait une très mauvaise réputation dans tout l'Empire romain, d'accord? Alors c'est peu dire pour les Romains qui n'avaient pas une éthique juive ou chrétien, d'accord? Qui n'avaient pas notre éthique, Pour eux-mêmes, Corinthe était une ville assez scandaleuse où il y avait beaucoup de débauches, entre autres à cause du temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour, ses 1000 prêtresses qui étaient en réalité des prostituées qui se promenaient partout en ville, tout ça. Donc, c'était le contexte dans lequel Paul arrive pour annoncer l'Évangile. Prospérité, culture, une vie extrêmement libertine qui, même aux yeux de l'époque, apparaissait comme débauchée. Et donc, ça, c'est le contexte où il s'en va. Pas particulièrement chrétien comme contexte pour annoncer l'Évangile, d'accord? On n'est pas en Israël ici. Et puis, il s'en va là pour annoncer l'Évangile. On pourrait résumer ce qu'on va voir ensemble ce matin comme ceci. Parce que c'est ce que je tire des Actes, et je pense que c'est notre réalité à nous aussi. Autour de nous, Dieu appelle des gens à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Alors, parle. Je résumerais ça comme ça. C'est ce que j'ai compris de ce passage-là. En quelques points, simplement, parle parce que tu sais. Parle parce que Dieu t'envoie. Parle parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Parle parce que c'est un travail d'équipe. Tu es en train d'entrer dans le travail d'un autre et c'est Dieu qui va le faire croître. Parle premièrement parce que tu sais. Parce que tu as un message. Tu as le message de l'Évangile. Tout à l'heure, je l'ai dit en introduction, l'Évangile, c'est quoi la bonne nouvelle de l'Évangile? Si tu connais personnellement Jésus-Christ, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, toi, tu sais. Alors, parle. Et c'est ce que Paul fait ici. Paul arrive à Corinthe et puis il s'en va échanger avec les Juifs qui savent beaucoup, mais ne savent pas, parce qu'ils attendent encore un Messie qui est venu. Savent beaucoup de prophéties, ne savent pas qu'elles sont accomplies en Jésus-Christ. Paul s'en va échanger avec les gens sur la place publique. Paul s'en va échanger avec les gens qui n'ont pas d'arrière-plan juif ou craignant Dieu, des sympathisants du judaïsme, parce qu'il sait, il connaît le message de Jésus-Christ. Paul sait que Jésus n'est pas simplement un autre prophète. Il n'est pas simplement le chef d'une autre religion. Il n'est pas simplement un philosophe. Vous réalisez que dans la culture où nous vivons, les gens autour de vous, au travail, à l'école, vos amis, votre famille, pour la majorité d'entre eux, là où ils sont rendus dans leur compréhension du christianisme, dans leur compréhension de la personne de Jésus-Christ, c'est un autre. D'accord? Ça se résume à ça. Un autre n'importe quoi, un autre philosophe, un autre qui nous a laissé des paroles inspirantes. Il y a une couple de versets dans la Bible, des paroles de Jésus que ça serait le fun d'avoir comme mantra, comme proverbe personnel, d'accord? Et pour eux, ça se résume à ça, un autre philosophe, un autre chef d'un grand culte, d'une grande religion. Pour eux, ça se résume à cela. Mais toi personnellement, si Dieu s'est révélé à toi, si tu as saisi le message de l'Évangile, si l'Esprit de Dieu a ouvert ton cœur pour que l'Évangile vienne pénétrer, toucher ton cœur, tu as saisi la grâce. Les louanges qu'on a chantées tout à l'heure, ce n'est pas la foi de tes parents, c'est la tienne. Ce n'est pas la foi de tes voisins, c'est la tienne. Toi, tu sais. Et ne serait-ce que pour cette raison-là, tu dois parler. Parle parce que toi, tu le sais. Ils ne savent pas. Et sans vouloir être condescendant, sans vouloir regarder de haut, il y a une ignorance incroyable sur ce qu'est le christianisme, sur la personne de Jésus-Christ, parce que les seules informations qu'ils reçoivent, c'est Jésus sur un T-shirt en train de faire le DJ. C'est tout ce qu'ils savent sur Jésus, vous comprenez? C'est une icône, c'est une patente. J'étais avec Esther en train de magasiner hier, et puis elle disait, c'est dans la mode encore cette année, comment est-ce qu'il y a de croix sur les vêtements? C'est tout ce qu'ils savent de Jésus. Pour la majorité d'entre eux, comprenez? Mais toi, tu sais. Alors, savoir personnellement et garder ça pour moi-même, ça, c'est un fardeau que moi, je ne veux pas porter. Et pour être très transparent avec vous, c'est un fardeau que j'ai porté beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. De quitter des conversations, quitter des personnes et savoir sans avoir parlé. Je ne veux pas porter ce fardeau-là. Parle aussi, non seulement parce que tu sais, mais parce que la responsabilité revient à chaque personne. Et une fois que tu as partagé l'Évangile, une fois que tu as annoncé Jésus-Christ, la responsabilité n'est plus sur tes épaules. Regardez bien ce que Paul fait ici, et ça peut être lourd pour nous, mais il faut comprendre, il faut mesurer cette grâce, ce privilège que nous avons de connaître l'Évangile. Paul, au verset 6, Paul est en train de discourir, il est en train d'instruire, il est en train d'enseigner dans la synagogue, tout ça. Et au verset 6, on lit « Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. » Le mot qui est là, c'est des blasphèmes. Probablement qu'ils attaquaient la personne de Christ et commençaient à mépriser Christ, d'accord? Mépriser Jésus-Christ, d'accord? Et donc, ils étaient en train de blasphémer. Et Paul, ce qu'il nous est dit, c'est que Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Lorsque Paul dit cela, il est en train de faire référence à un passage dans l'Ancien Testament, un passage qui avait une parole qui avait été donnée au prophète Ézéchiel, alors que le prophète Ézéchiel devait aller reprendre le peuple, devait aller parler au peuple, devait aller leur dire que Dieu les invitait à la repentance. On trouve ça dans Ézéchiel 33, versets 7 à 9, je vais juste vous le lire. Voici ce que Dieu dit à Ézéchiel, alors qu'il lui donne ce mandat de parler. Il lui dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. » C'est un passage merveilleux, Ézéchiel 33. Prenez le temps d'aller le lire. On voit combien Dieu ne prend pas plaisir à rejeter les hommes. Et lorsqu'il parle du méchant, il parle de celui qui ne veut pas entendre parler de Dieu, qui ne veut pas entendre l'Évangile, qui ne voudrait surtout pas avoir à se soumettre à un Créateur, à servir un Dieu. Il veut être lui-même son propre Dieu. Maintenant, la parole et la responsabilité que Dieu donne à Ézéchiel est énorme. Si je regarde simplement cela, je vais prendre ça comme un fardeau incroyable. Si tu ne parles pas, leur sang retombera sur ta tête. Mais en réalité, le rôle qui est donné à Ézéchiel, c'est celui d'être une sentinelle. Et c'est ça qui nous est donné comme exemple dans Ézéchiel 33. Une sentinelle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui avertit d'un danger imminent. Alors, si je prends l'illustration et que je la comprends bien, je suis une sentinelle qui est postée à la tour de garde et on est là pour protéger une ville qui est toujours menacée potentiellement. Et je suis là pour avertir d'un danger imminent. Imaginez un instant que je suis sur cette tour de garde et que je vois l'armée ennemie qui s'en vient. Et je décide tout simplement d'aller prendre un petit café, ou pire encore, de mettre la monture sur mon cheval et de me pousser. Bien sûr, je suis responsable. Tu sais, tu connais l'Évangile. Je ne peux pas t'enlever cette responsabilité-là. Ça serait t'encourager à être profondément égoïste. À dire, j'ai sauvé mon âme, que Dieu donne les autres. J'ai connu Jésus-Christ, tant pis pour le reste. De toute façon, ils sont bouchés. Parce que tu ne l'étais pas, toi. Parce que toi, ton cœur était toujours ouvert à l'Évangile. Parce qu'il n'y a personne qui a dû souffrir de ta part d'être rejeté lorsque tu annonçais l'Évangile. Oh, combien de fois je me suis moqué de mes proches qui me parlaient de Jésus-Christ. Combien de fois. Mais ils ont été des sentinelles pour moi. Ils m'ont averti. Parce qu'ils savaient, et ils savaient que je ne savais pas. Parle afin que la responsabilité retourne à chacun. Et lorsque j'ai annoncé l'Évangile, Dieu ne me demande pas d'être responsable du choix des autres. Il me demande avec amour, avec grâce, d'aller vers eux, d'aller les rencontrer. Comme on l'a vu la semaine dernière, c'est pas une histoire de leur rentrer ça en travers de la gorge, mes amis. Je ne sais pas combien de fois je l'ai fait, puis... Écoute, ça prenait vraiment une intervention du Saint-Esprit pour qu'ils se convertissent parce que je ne leur avais pas donné de chance. Je sais, ça prend toujours une intervention du Saint-Esprit. Je sais, j'ai la bonne théologie. Comprenez ce que je veux dire? Il y a deux manières d'annoncer l'Évangile. Celle où tu prends ta Bible, tu leur snaps ça dans le front. Puis celle où tu leur dis, regarde, je comprends d'où tu viens. Est-ce qu'on peut prendre un café ensemble? Moi aussi, je suis passé par là. Mais parle parce que tu le sais. Parle parce que tu veux que la responsabilité soit sur les épaules de chacun. Parle parce que Dieu t'envoie. Dieu veut rassurer Paul ici, il veut le fortifier, il lui donne une promesse, il lui dit « Je suis avec toi », il lui donne une promesse de protection aussi. On trouve au verset 9 et 10, « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle, car je suis avec toi. » Encore une fois, c'est un thème qui revient à plusieurs reprises dans l'ensemble des Écritures. On le trouve, par exemple, avec Jérémie, quand Dieu mandate le prophète Jérémie. Dieu va dire quelque chose de semblable à Jérémie. Je vous lis dans Jérémie 1, versets 6 à 8. C'est Jérémie qui répond et qui dit « Non, 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 je suis trop petit pour ça, Seigneur. Je peux pas faire quelque chose comme ça. Tu sais pas à qui tu confies cette mission-là. Ça n'a pas de bon sens. « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Et voyez-vous, le réflexe qu'on a comme chrétien, c'est d'écouter le bonhomme qui est en avant puis dire, « Lui, il sait parler, donc il peut le faire. Moi, c'est pas mon appel. » Mais lorsque je raisonne comme ça, je suis encore dans l'Ancien Testament. Quand je pense comme ça, il y a quelque chose de fondamental à l'Évangile que je nie complètement. C'est quoi la différence la plus importante entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en termes de relation avec Dieu pour chaque individu? Mais c'est justement ça. Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament qu'un jour viendrait où ce ne serait pas simplement quelques personnes choisies par le peuple pour représenter le peuple qui auraient l'Esprit de Dieu sur eux, mais qu'un jour viendrait où à cause du sacrifice de Christ, un jour viendrait où Dieu purifierait chacun des cœurs de ceux qui croient en Jésus-Christ et ils recevraient l'Esprit Saint. L'Esprit Saint venant demeurer en eux et chacun d'entre eux deviendrait un enseignant, c'est ça qui est dit. Tu sais, tu connais l'Évangile. Alors, ne te cache pas de grâce derrière cette idée que c'est le curé en avant. Si vous êtes encore là, vous êtes dans mauvaise église, les amis. Vous n'êtes pas à bonne place. Moi, je suis pas un curé. Moi, je suis un pécheur à qui Dieu a fait grâce. Il m'a donné des dons qui sont peut-être différents des vôtres, mais il m'a pas donné un esprit qui est différent de celui qu'il vous a donné. Il faut changer d'église, si c'est ça que vous croyez. Vous n'êtes pas à bonne place. C'est pas ça. Dans Matthieu, Seigneur Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On est dans le Nouveau Testament. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On a vu jusqu'à présent à travers le livre des Actes que Dieu prend des leaders pour enseigner, pour annoncer, c'est vrai, pour faire certaines percées, c'est vrai. Mais en même temps, Dieu prend tout le monde et on le voit à travers le livre des Actes. Dieu va se servir de tout le monde. Je vous ai mentionné à plusieurs reprises que les chrétiens, alors qu'ils se répandaient un peu partout dans l'Empire suite aux persécutions, partout où ils allaient annoncer l'Évangile. Ce qui est intéressant dans le passage ici, c'est que Priscille et Aquilas eux-mêmes vont devenir des enseignants. Ils vont enseigner Apollos, d'accord? Dieu t'envoie parce que Dieu t'a donné le message. Et ces grandes promesses incroyables qu'on trouve avec Ézéchiel, avec Jérémie dans l'Ancien Testament pour un prophète, elles sont révolues maintenant parce qu'elles sont applicables à tous ceux qui ont l'Évangile. Tu connais l'Évangile? Dieu t'envoie. Dieu t'envoie vers ceux qui ne savent pas. Et Dieu t'envoie même si tu es un peureux comme Paul. C'est vraiment intéressant lorsqu'on arrive dans ce passage à Corinthe, tout ça, on voit Paul, puis là on suit Paul depuis un bout de temps, puis on se dit, c'est clair qu'on n'est pas de la même trempe que ce gars-là, puis ce gars-là avait, écoute, il arrive dans une ville, il commence à annoncer l'Évangile, les gens ne veulent rien savoir, commence à être tiré des roches, il est abandonné, il est pris pour mort, alors les gens pensent qu'il est mort et ils le laissent là, finalement il est pas mort, il s'en va dans une autre ville, il recommence, puis à chaque fois il se relève, il commence à prêcher, bang, il se fait frapper, il se relève, commence à prêcher, bang, il se fait frapper, finalement tu te dis, il est pas de la même nature que nous ce gars-là. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que lorsque Paul était à Corinthe, il shakait dans ses culottes. Il tremblait dans ses culottes. Vous ne le voyez pas dans Actes, mais on le voit dans une lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, aux chrétiens. Plus tard, Paul a écrit à cette église qui est née maintenant de son ministère, du ministère d'autres hommes et femmes qui ont annoncé l'Évangile. Il y a une église qui est née, Paul leur écrit une lettre et on trouve ça dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 3, voici ce que Paul dit. Paul veut leur rappeler, il leur dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ailleurs, Paul va demander qu'on prie pour lui afin qu'il ait du courage, de la hardiesse pour annoncer l'Évangile. Oui, Paul, c'était un homme qui avait un don particulier. Oui, c'était un homme que Dieu appelait à accomplir des choses extraordinaires. Et Dieu ne nous appelle pas tous à aller implanter 48 000 églises. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas ça l'enjeu ici ce matin. L'église ici, elle est là. Certains d'entre nous partiront dans quelques années pour aller implanter des églises ailleurs. C'est notre vision, c'est notre rêve, ça va être génial. Mais cette mission-là commence quotidiennement, dans la bouche de chacun d'entre nous, où comme Paul, on dit « j'ai peur, j'ai des craintes, je tremble, mais je veux connaître une seule chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Je veux annoncer ce Sauveur-là, parce que je sais. » Alors certainement que tu es peureux. Moi, je le suis. Moi, je le suis. Et c'est vraiment pas tout le monde qui est à l'aise de commencer à parler. Des fois, lorsqu'ils le sont, ça fait peur parce qu'il peut y avoir plein d'orgueil là-dedans aussi. Mais c'est normal, ça. Je m'en vais annoncer quelque chose qui est impopulaire. Je dois dire à quelqu'un, écoute, t'es beau, t'es fin, t'es capable, mais t'es rebelle, t'es pécheur, puis t'as besoin de Dieu. Parce que sans lui, ça va aller mal. C'est ça mon message. Et si tu veux te réconcilier avec Dieu, il faut que tu t'humilies. Il faut voir que le petit Dieu qui est au centre de ton univers, qui s'appelle moi, prenne le bord un peu puis t'invite Dieu à prendre la place. C'est comme pas super comme pitch de vente, vous comprenez? C'est normal d'avoir peur. C'est normal. Mais je sais, Dieu m'envoie, il est avec moi, Jésus-Christ est avec nous aujourd'hui. Et je suis appelé à parler parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Je suis bien conscient que cette vision-là a été donnée à Paul, elle a été donnée à une époque particulière, à un moment précis. Dieu n'a même pas donné cette vision-là dans chacune des villes où Paul allait. À bien des endroits, Paul commençait à ouvrir la bouche, paf, il mangeait 3-4 claques, puis il s'en allait ailleurs, il avait fait quelques chrétiens, puis ça s'arrêtait là. Dans ce cas-là, on le voit dans le déroulement après, c'est clair, Dieu va le protéger, les Juifs veulent l'empêcher de parler, il va se retrouver devant l'autorité civile, Dieu va empêcher tout ça, va dire non, c'est une religion, non pas illicite, mais licite, tolérée. C'est juste un autre de vos mouvements juifs, cette affaire-là. Puis Paul va continuer à enseigner pendant un an et demi. Alors, je suis conscient que cette vision-là est particulière pour Corinthe. Mais la vérité en ce qui concerne notre champ de mission à nous, la vérité en ce qui concerne ici, le Grand Longueuil, là où vous habitez, la vérité, c'est que nous sommes dans une terre, nous sommes dans la terre qui est le moins atteint par l'Évangile de toute l'Amérique du Nord. Ça, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu a encore un grand nombre de personnes qu'il veut sauver dans cette ville. Je n'ai pas besoin d'une vision. Je n'ai pas besoin d'un ange qui m'apparaît pour le savoir. Je le sais parce que Dieu continue à sauver. Pas plus tard que cette semaine, il y avait encore un sondage qui sortait dans la presse. Et des fois, on a l'impression vraiment que les gens sont fermés. Ils ne veulent pas parler de l'Évangile. Il y avait un sondage sur des jeunes étudiants. Des jeunes du secondaire, tout ça. Et si on peut aller à la prochaine acétate, un des résultats qui était sorti dans ce sondage-là, c'est que 32 % des élèves du secondaire croient en Dieu ou en une divinité quelconque. Et si vous remarquez, ça va en décroissant, 50 % en 2000. Alors, lorsqu'on a l'impression que la culture est en train de changer, est en train d'évoluer, puis c'est pas évident que dans 20 ans, ça va être aussi simple de parler de l'Évangile, je pense que c'est une perception juste, d'accord? La tendance lourde va dans ce sens-là. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est pas le 50 %, c'est le 32 %. Parce que l'écho que j'ai lorsque je parle avec des jeunes, c'est effectivement, cette génération-là est dans un air post-frustré contre le christianisme. Ils sont curieux. Ils n'ont pas toutes les blessures que la religion peut apporter, tout ça. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces barrières-là. Il y a une curiosité. On est dans une culture de respect mutuel. Et donc, ils veulent comprendre, ils veulent entendre. Et il y a cette possibilité qui est là. Alors, parle, parce que Dieu a un peuple nombreux. Ce qui est extraordinaire dans ce passage-là, c'est que ce que Dieu nous rappelle ici, c'est que nous avons beau annoncer l'Évangile, personne ne va venir à la connaissance de Christ si Dieu ne l'attire pas à lui. L'être humain par lui-même est rebelle et ne va pas se tourner de lui-même vers Dieu. C'est Dieu qui l'attire. Et donc, Dieu prononce cette parole incroyable ici. Il donne cette assurance à Paul avant même qu'il parle. Il dit, j'ai dans cette ville des gens qui m'appartiennent déjà. C'est juste qu'ils ne savent pas. Mais ils m'appartiennent déjà. Parce que lorsque quelqu'un vient à la connaissance personnelle de Jésus-Christ, d'une manière mystérieuse, je ne prétends pas avoir les réponses, d'une manière mystérieuse, cette personne répond de tout cœur à l'Évangile. Elle prend cette décision-là, mais Dieu a opéré une œuvre d'appel sur lui. Autrement, il n'y en aurait pas de réponse. Et ça, c'est une grande consolation. On l'accepte une fois qu'on s'est converti. Une fois que vous êtes devenu chrétien, vous dites, ah, c'est incroyable, Dieu me courait après, c'est merveilleux, Dieu est venu vers moi, puis on voit la main de Dieu. Mais lorsque je m'en vais annoncer l'Évangile, je dois garder à l'esprit que Dieu est souverain et que c'est lui qui sauve. Mon travail à moi, c'est de parler, d'aller et d'annoncer parce que Dieu a un peuple nombreux. C'est juste qu'ils ne savent pas. Et ça se peut que ce soit la première fois, la deuxième fois, la centième fois qu'ils entendent l'Évangile. Mais ceux que Dieu a appelés vont répondre à ce message-là. Et leur foi va grandir dans la personne de Jésus-Christ. Ils vont découvrir, se reconnaître pécheurs et placer leur foi personnelle en Jésus-Christ. Ils vont reconnaître en lui leur Sauveur, leur Seigneur. Je reviens un petit peu en arrière juste pour mentionner quelque chose à ceux qui sont ici dans la salle et vous entendez constamment l'Évangile. Peut-être que vous êtes dans un foyer chrétien, vos parents vous parlent de l'Évangile, votre conjoint vous parle de l'Évangile, des amis vous parlent de l'Évangile. Si vous avez bien entendu ce que je suis en train de dire ici, à force de vous annoncer l'Évangile à tous les dimanches, pratiquement tous les dimanches, des fois complet, des fois en partie, je m'assure d'une chose, les amis. Moi, je suis pur du sang de chacun d'entre vous. Alors, si tu viens dans cette église et que tu dis, c'est pas assez hot, c'est pas assez cool, il soigne pas assez, il crie pas assez fort, il danse pas assez, c'est pas cool le message. Comprends une chose. Moi, je suis pur de ton sang parce que j'annonce l'Évangile constamment ici. Cette église-là, à travers tous ses ministères, annonce l'Évangile constamment. La responsabilité de répondre repose sur tes épaules. Alors, si Dieu fait entendre cette voix-là, tu sais dans ton cœur que Dieu existe, tu sais dans ton cœur qu'il est vivant, mais il y a ce désir en toi de rester rebelle contre Dieu. Juste simplement dire, je comprends, c'est beau l'Évangile, mais non! Je ne veux pas m'humilier devant ce Dieu. Ça, c'est ta décision. Ton sang repose sur ta tête. Humilie-toi, réponds à l'appel. Réponds à cet appel-là. Parce que si tu entends cette voix-là, c'est déjà une manifestation de la grâce de Dieu envers toi. Alors ne résiste pas, ne continue pas à résister avec un cœur rebelle à un Dieu si bon qui t'appelle. Parle parce que Dieu t'envoie et parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Et c'est vrai, plusieurs vont rejeter l'Évangile. C'est comme ça. Ce n'est pas les chiffres qui m'importent. Ce qui m'importe, ce qui nous importe, c'est de voir des gens, parmi le grand nombre à qui on va annoncer Jésus-Christ, ouvrir leur cœur à Christ et l'embrasser par la foi. Enfin, en terminant, parle parce que c'est un travail d'équipe. Je trouve ça fascinant dans le passage. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on est allé à la fin avec Apollos, tout ça jusque-là. C'est que lorsque Paul, à la fin complètement d'Acte 18, lorsqu'il est dit qu'il voulait retourner en Achaïe, en réalité, il s'en va à Corinthe. Regardez avec moi, chapitre 19, verset 1. « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. » Et ce que je veux souligner ici, c'est que le travail d'annoncer l'Évangile, c'est un travail d'équipe qu'on fait. D'accord? Vous entrez dans l'œuvre bien souvent d'un autre. La première fois que vous parlez de l'Évangile à quelqu'un, vous ne le savez pas, les trois quarts du temps, il a déjà entendu parler de Jésus. Bien souvent, le Seigneur avait déjà placé sur son chemin un chrétien. C'est lui le chef de mission, c'est Dieu, c'est pas nous. Nous, on est juste les messagers. Et donc, on entre dans le travail d'un autre. Lorsqu'on parle de l'Évangile en Église ici, que ce soit à travers la banque alimentaire, que ce soit à travers des relations, des amitiés, vous invitez des gens à la fête qu'on va avoir pour les enfants à Pâques, nous entrons dans un travail d'équipe. Et si vous êtes bien connecté avec l'Église ici, c'est indéniable. Ça va être une invitation pour venir écouter le témoignage d'Alain à Pâques. Ça va être peut-être un premier contact plus concret avec l'Évangile. Peut-être que c'est vous qui l'avez eu, ce premier contact-là avec l'Évangile, en partageant votre foi à cette personne. La personne va peut-être ensuite de ça venir prendre le cours « La foi chrétienne expliquée ». Il y a un cheminement, mais le cœur n'est pas encore ouvert à l'Évangile. C'est un travail d'équipe qu'on est en train de faire. Plus tard, dans la même lettre aux Corinthiens, Paul va dire d'Apollos, c'est un travail d'équipe qu'on fait. Et c'est pas la gloire de savoir c'est lui qui a conduit lui au Seigneur, blablabla, tout ça. Ça n'a absolument aucune importance. Ce qui est important, c'est de voir des âmes s'ouvrir à l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, Paul va dire, j'ai semé. Paul a arrosé. Apollos a arrosé. Et c'est Dieu qui a fait croître. C'est un travail d'équipe dans lequel on est engagé qui est non seulement un travail à échelle humaine, mais c'est un travail d'équipe avec Dieu. Lorsque j'ouvre la bouche pour annoncer l'Évangile, je suis simplement en train d'être un serviteur de Christ. Je sème, un autre va venir, va arroser, et si ça pousse, c'est parce que l'Esprit Saint s'en mêle. Et je termine avec ça parce que saisir ce message-là ce matin, ça peut être un fardeau pour certains d'entre vous si vous ne comprenez pas que nous sommes des serviteurs de Christ. Nous sommes au service de l'Esprit de Dieu. J'ai commencé en vous disant « parler afin d'être libre de cette responsabilité-là ». Parler parce que vous savez, et ça peut vous accabler. Vous pouvez dire « oui, mais Yannick, je sais pas comment parler, je sais pas comment le faire. Toi, t'es là, tu blablates pendant 45 minutes, 50 minutes, une heure trop souvent. T'arrêtes pas de parler. Moi, je sais pas comment faire ça, Yannick. Et donc, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire. Puis là, t'es là, tu me dis ce matin que le sang des gens à qui je parle pas repose sur ma tête. C'est ça que t'es en train de me dire. Non, pas moi, je pense que les Écritures te le disent. Mais c'est lourd, tout ça. Oui et non. Oui et non. Parce que je ne suis pas responsable des résultats. Je suis même pas responsable d'être vraiment bon. Comprenez? Ma job, c'est de parler. Puis, comme le disait Boileau dans son poème, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. 20 fois. Ah, mais le poème, le titre du poème, c'est 100 fois. Je vais devenir meilleur en annonçant l'Évangile. Je vais devenir meilleur en annonçant encore l'Évangile. Je vais devenir meilleur en annonçant encore l'Évangile. Alors, peut-être que vous êtes maladroit. Vous quittez une conversation, puis vous êtes maladroit. Dieu parle parfois à travers un âne. Est-ce qu'il peut se servir de toi? C'est pas moi là en passant. On s'entend? C'est dans l'Ancien Testament, vous irez voir ça, d'accord? C'est pas moi là. Mais Dieu parle à travers n'importe qui. Est-ce qu'il peut se servir de toi? Alors peut-être que tu as besoin de grandir, peut-être que tu as besoin d'apprendre, peut-être que tu as besoin d'être équipé. On a des cours pour ça. On donne des cours d'évangélisation, je l'ai mentionné la semaine dernière. On t'équipe à pouvoir annoncer l'Évangile. Tout à l'heure, j'ai parlé du livre de D.A. Carson. Un excellent outil pour pouvoir avoir un plan global des Écritures, être capable de répondre quand quelqu'un dit « Ouais, mais là, dans l'Ancien Testament, c'est sanglant cette affaire-là. C'est quoi cette histoire-là? » Puis là, toi-même, t'es mal à l'aise. Puis là, t'essaies juste de revenir à Jésus qui dit « Je vous aime tout le monde, venez, je vous prends dans mes bras. » T'as besoin d'avoir tout le message, toute l'histoire pour pouvoir partir de là et parler de l'Évangile à partir de là. Va lire le livre, équipe-toi. Tu dis, oui, mais moi, j'apprends sur le terrain. Fait que lire des livres, je sais pas comment apprendre avec ça. Extraordinaire. C'est ça que Paul faisait. Prenait les gars avec lui sur le terrain. Viens t'impliquer à ce moment-là. Le cours qu'on donne ici va t'amener sur le terrain. Viens t'impliquer dans les petits groupes en mission. On a maintenant 3 petits groupes en mission qui sont impliqués à la Banque alimentaire. On a un petit groupe en mission qui est impliqué avec les clubs pour enfants. Viens t'impliquer avec nous. Et fais simplement être témoin, voir des gens qui apprennent naturellement, pas simplement en cognant une porte, arriver avec un questionnaire, à travers une conversation naturelle, t'intéresser à la personne, jaser avec elle, vouloir la connaître vraiment, écouter son histoire à elle pour après ça pouvoir lui raconter l'histoire de Dieu, là où Dieu l'invite à entrer dans son histoire. Et tout ça naturellement. Il y a des gens ici... Dans notre assemblée, hier, j'essayais de voir, puis je me disais, j'ai au moins 30, 40, 50 personnes qui font ça naturellement, régulièrement. Certains, on a tous des styles différents. Il y en a que c'est comme la hache, le bazooka. D'autres, c'est plus sweet. Toutes sortes de méthodes différentes, d'accord? Dieu est souverain là-dedans. Il épargne quelques personnes. Des fois, vous comprenez? On a toutes nos approches. Mais il y a 30, 40 personnes ici qui annoncent régulièrement l'Évangile avec beaucoup de naturel. Tu as juste à te coller sur l'une d'entre elles. C'est tout ce que tu as à faire. Implique-toi avec elle dans un contexte où elle parle régulièrement de l'Évangile, puis tu vas pouvoir apprendre. Alors ce matin, voici ce que je vous dis. Vous n'êtes pas à l'aise à annoncer l'Évangile, je comprends ça. Je comprends ça. Dieu m'est témoin que j'ai fait des prières assez drastiques dans ma vie pour dire, Seigneur, transforme-moi afin que j'annonce régulièrement l'Évangile. Ou sinon, Seigneur, moi je débarque. Et Dieu prend ces prières-là au sérieux. Alors commence par prier. Commence par aller dans la prière, à t'humilier devant Dieu. Puis à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de ton esprit. J'ai besoin d'être rempli de ton esprit afin d'être un peu plus détaché de moi-même et puis être là dans la mission pour toi, Seigneur. J'ai besoin d'être rempli de ton esprit afin de savoir comment aimer les gens, pas juste être dans l'anxiété de pouvoir placer 2-3 versets, mais vraiment aimer cette personne-là pour pouvoir lui présenter l'Évangile dans son histoire à elle. J'ai besoin d'être rempli de ton esprit afin de passer du temps dans ta parole, Seigneur. Aimer ta parole pour pouvoir communiquer ta parole, Seigneur. Commence par prier, te repentir et demande à Dieu de venir faire une œuvre puissante par son esprit en toi. Il va le faire. Selon tes dons, ton style, la mesure de dons qu'il t'a donné, mais il va le faire. Il l'a promis, il va le faire. Dieu prend au sérieux ces promesses-là. Deuxièmement, équipe-toi. C'est possible de le faire. Il y a plein de ressources. On vit à une époque où les ressources sont illimitées. C'est pas ça le hic. C'est simplement de prendre le temps de m'équiper. Il y a plein de ressources dans l'Église ici. Et il y a des gens encore, comme je vous le dis, ce sont des naturels. Allez vous coller à eux. Vous dites, ouais, mais je suis pas comme ça. Tu vas apprendre. Tu vas trouver toi, ton approche, ton style. Ça, c'est pas important parce que c'est de toi que Dieu veut servir avec certaines personnes. Alors, équipe-toi à ce moment-là. Entre, fais le pas de foi d'entrer dans la mission pour pouvoir t'équiper. Et en fin de compte, parle. Ouvre la bouche et parle. 20 fois sur le métier. Retourne-y. La première fois, ça va. Puis là, tu vas te dire, « Hey, que j'avais de l'air épais! » C'est vrai, Saint-Esprit est là, puis il dit, « Tu vas venir meilleur. » Mais parle! Parle! Parce que tu connais l'Évangile. Parle parce que Dieu t'envoie, parce que Dieu est avec toi. Parle parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Et parle parce que t'es juste un autre élément dans cette grande chaîne dans le travail d'équipe où on annonce l'Évangile à cette ville. C'est notre mission, les amis. Parlez. On va prier. Seigneur, notre Dieu, je veux te bénir. Je veux te bénir pour Paul. C'est vrai, Seigneur, que c'était un fou. C'est vrai, Seigneur, qu'il mangeait des baffes et il se relevait, Seigneur. C'est vrai qu'il était extrême, ce gars-là. Je suis content que tu m'aies placé à une autre époque, Seigneur. Je suis content que tu m'aies placé dans une autre société. Mais je veux tellement, tellement, tellement être comme lui, Seigneur. Avec mes dons, avec mon style, avec ma personnalité, Seigneur. Quand tu es venu me sauver, Seigneur, tu n'es pas venu sauver un persécuteur de chrétiens. Tu es venu sauver un gars qui s'en allait nulle part. Et là, je m'en vais quelque part, Seigneur, avec l'Évangile. Et j'ai un message. Seigneur, transforme cette assemblée, transforme-nous, chacun d'entre nous. Afin que nous ouvrions la bouche de plus en plus, Seigneur. Forme-nous afin qu'on soit meilleurs, mais surtout, surtout, remplis-nous de ton esprit. Afin que nous le faisions avec joie, avec grâce, avec paix, Seigneur. Par ta puissance, non pas avec une éloquence de langage, comme dit Paul, mais dans une manifestation de puissance par ton esprit, Saint, Seigneur. Père, j'ose te prier encore une fois pour ceux qui, au milieu de nous, ont entendu l'Évangile, ont entendu la voix de ton esprit qui les appelle, Seigneur. Entendre l'Évangile semaine après semaine. Seigneur, tu sais, Seigneur, que je suis pur de leur sang à tous, Seigneur, parce que j'annonce l'Évangile. Aie pitié d'eux. Accorde-leur la grâce, Seigneur, de se repentir, de s'humilier, de courir à la croix. Et d'embrasser avec foi Jésus-Christ, afin qu'il soit leur sauveur et leur Seigneur. Je t'en prie, mon Seigneur Jésus, tu es puissant. Tu m'as pris, moi, rebelle, tu as pris des centaines de personnes ici, rebelles, indifférents, ignorants, Seigneur, des grâces et des merveilles de ton Évangile, et tu t'es révélé à nous, Seigneur. Viens et sauve, sauve, Seigneur, au milieu de nous, sauve dans cette ville, Seigneur. On va parler. Amen.